Cette émission est préparée toute l'année et toutes les nuits par Géraldine Mosna-Savoie, Tristan Grenassia et Pauline Darvet, avec ces jours-ci l'aide précieuse des doublures nocturnes que sont Abla Kandalaft, Quentin Molinier et Walter Galvani. Cette semaine où les nuits sont les plus courtes de l'année sera célébrée en musique par François Connac. À la réalisation, avec aujourd'hui à la prise de son enténébrée, Ariane Herbé. À 10h50, ce sera l'heure de vous réveiller à nouveau au son de la voix de François Nudelmann, qui viendra présenter son journal de la philosophie, en compagnie aujourd'hui de Jean-Yves Tadier, qui viendra vous parler de son livre consacré à Proust et Freud, paru aux éditions Gallimard. Voici l'heure où le lion rugit et où le loup hurle à la lune. Où Rousseau s'installe dans sa barque et Rimbaud descend en enfer. L'heure où se réveille le fantôme d'Hölderlin et où s'anime l'angoisse du néant d'Heidegger. La nuit suspend la vision et nous fait croire qu'elle est sans appel, mur infranchissable, obstacle qui nous renvoie à notre propre perte. Mais la nuit n'est pas la mort puisqu'elle a une fin, puisqu'on assiste à son envol, à sa dissolution au sein de son double solaire. Les yeux, devenus inutiles, passent le relais aux autres sens, exacerbés. Les mains se mettent à entendre et l'ouïe devient notre garde et notre guide. La nuit est d'abord expérience sensible. Et pour qui sait accueillir cet ajustement de tous les sens, l'obscurité devient féconde, créatrice. Loin des scansions de la journée, l'esprit n'a que faire de l'heure et des autres. Il est tout entier à lui-même. Il se donne à ce qu'il ne voit pas. Il prend le risque de se perdre, car il sait que le sommeil le sauvera de cette perte. Mais peut-on penser la nuit ? Est-elle autre chose que le revers du jour, la face obscure du soleil, une transition vers autre chose ? Y a-t-il une autre manière de réfléchir à la nuit que celle de l'écrivain qui en épuise la portée poétique, que celle de l'astronome qui en connaît les contours, ou que celle du poète qui la réduit à une métaphore? Regarder la nuit à travers ses propres yeux, les yeux de la nuit, grands ouverts, c'est le programme des Nouveaux Chemins cette semaine. Demain, mardi, Henri Godard nous fera faire un long voyage, un voyage jusqu'au bout de la nuit, à travers la boue et les étoiles de Louis-Ferdinand Céline. Mercredi, Alain Montandon ouvrira pour vous les yeux de la nuit du romantisme allemand. Et jeudi, c'est Suzanne Liandraguigue qui vous rendra hommage à la nuit, qui rendra hommage à la nuit la plus courte de l'année en vous parlant d'Antonioni et de son film La Notte. Mais aujourd'hui, commençons par remonter le temps et écouter Alain Cabantous nous conter une histoire de la nuit.
L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prit pour Barcelonnette.
C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau.
Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule.
C'est mieux.
De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents orgueil et doute.
Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous lentement, mon ami ? Vos mots sont hésitants, pourquoi ?
C'est qu'il fait nuit. Quoi ? Dans l'ombre, à tâtons, il cherche votre oreille.
Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles.
Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand. Vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps.
Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants.
De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude.
Je vous parle en effet d'une vraie altitude.
Certes. et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur.
Je descends.
Non.
Grimpez jusqu'ici, alors vite.
Non.
Comment non?
Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir.
Sans se voir?
Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Et je crois vous parler pour la première fois.
C'est vrai que vous avez une toute autre voix.
Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Et j'ose. Où en étais-je? Je ne sais tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi.
Si nouveau?
Si nouveau, mais oui, d'être sincère.
Bonjour Alain Cabantous.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une histoire de la nuit qu'on trouve aux éditions Fayard, histoire de la nuit du XVIIe ou XVIIIe siècle.
Oui.
On vient d'entendre un extrait de Cyrano de Bergerac, en tout cas le film qui a été tiré de la pièce d'Edmond Rostand, donc le film de Jean-Paul Rafneau qui date de 90. La fameuse scène sublime, vraiment très très belle, hein, de la déclaration d'amour de Christian à Roxane. Roxane est sur un balcon, Christian se trouve en bas dans le jardin. Et la nuit aidant, Cyrano va se substituer à Christian et va donc déclarer son amour pour Roxane, amour qui est réel, hein, puisque lui-même est amoureux de sa cousine Roxane. Et on en a ici un exemple de l'ambivalence de la nuit qui est à la fois inquiétante, on entend l'orage derrière, la nuit, les corps ne se voient pas, les visages ne se voient pas. Et en même temps, c'est peut-être cet anonymat, cette perte du visage qui est un vecteur de création. Ici, c'est très clair, c'est parce que Roxane ne le voit pas que Cyrano peut se substituer à Christian et laisser libre cours à son imagination et à sa flamme créatrice.
Oui, je crois que le choix de cette scène est tout à fait judicieux dans la mesure où on a là un certain nombre ou au moins quelques caractéristiques de la nuit qui concernent plutôt, je dirais, le rapport de l'individu à la nuit. Par là, je veux dire qu'il s'agit, lorsqu'on essaye d'apprivoiser la nuit en tant que personne, d'en faire sa chose et d'être capable, je dirais, de voir sans être vu. Alors, bien sûr, il y a le revers de la médaille sur lequel on reviendra peut-être, c'est être vu sans voir. Bon, mais là, en l'occurrence, c'est voir sans être vu, c'est-à-dire dissimuler et du coup transformer une partie de ses sentiments ou la totalité de ses sentiments ou évidemment transformer une partie de son attitude, même si ce n'est pas une attitude amoureuse, de façon à pouvoir atteindre son but. Voilà. Et on a là, effectivement, à travers cette scène, un très bel exemple de quelqu'un qui voit sans être vu et de quelqu'un qui écoute et qui ne voit pas. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est bien, en rebondissant sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de l'ajustement des sens. Et il me semble que là, on a affaire effectivement à un ajustement des sens, dans la mesure où la sollicitation de la vision, de la vue, évidemment beaucoup plus faible ou même quasiment nul avec la nuit. On sollicite davantage parfois le toucher, parfois le sentir, et là c'est Louis. Donc on a donc là deux personnages qui utilisent de manière très différente les sens et qui finissent par se rencontrer dans cette espèce d'association.
Oui, c'est peut-être pour cela d'ailleurs que la nuit est toujours investi d'une puissance créatrice, voire fantastique ou surnaturelle, puisque la vue elle-même est suspendue, on ne peut plus rien voir, et du coup les autres sens semblent exacerbés, démultipliés, on devient attentif à des choses qui, quand la vue finalement fait écran, ne nous atteignent pas.
Oui.
Et c'est en doute en ce sens que Roxane est d'autant plus réceptive au discours qu'elle entend.
Oui, oui, vous avez raison. Mais en même temps, je dirais que la puissance créatrice que peut proposer la nuit est liée aussi à une espèce de surdéveloppement de l'imaginaire. Alors, évidemment, parfois dans un sens effrayant, redoutable, voilà. Parfois, évidemment, dans un sens extrêmement novateur et tout à fait enrichissant. Parce que ce qu'on imaginait être, comme dit Buffon à un moment, un monstre, le lendemain matin ne s'avère être qu'un arbre. Donc, voilà, on retrouve là le principe un peu dur de réalité que donne la vue, alors que la nuit estompe en définitive un certain nombre de choses et permet à l'imaginaire de si tant est qu'on en ait un peu et qu'on ait la possibilité aussi, je dirais, de la faire fonctionner, donc qui permet une transformation probable de la création individuelle et personnelle. Oui.
Mais ce qui rend l'objet nuit, si on part du principe que la nuit peut être un objet de pensée, extrêmement difficile non seulement à penser, mais encore plus à en faire l'histoire, puisque vous avez écrit une histoire de la nuit.
Oui.
Est-ce qu'on peut prendre en compte, en tant qu'historien, du coup, cette dimension imaginaire de la nuit ? Puisque l'historien travaille à partir de documents, de témoins, de faits, il est très difficile de retracer l'évolution d'une conception imaginaire que les hommes se font de la nuit.
Oui, ça c'est extrêmement compliqué. Alors d'abord, je pense que je n'ai pas tout à fait la compétence pour aborder ce genre de choses, dans la mesure où très souvent, quand on parle de l'imaginaire créateur de la nuit, ça se concrétise par quelque chose. Ça se concrétise par des œuvres d'art, ça se concrétise. Bon, il y a des peintres qui peignent la nuit, il y a un genre nocturne qui est très très important, qui se développe surtout au XIXe siècle, mais qui est déjà important à l'époque moderne. Il y a aussi une création évidemment poétique, des gens qui ne travaillent que la nuit, enfin, ou qui travaillent sur la nuit et uniquement la nuit. Alors, moi, je n'ai pas cette compétence-là de faire une analyse de texte ou une analyse de tableau, etc. Mais en revanche, alors la difficulté, effectivement, que vous soulignez, c'est que ces gens-là souvent n'expliquent pas la manière dont ils travaillent. Voilà, parfois, cependant, des gens plus modestes qui sont moins créateurs évoquent un petit peu la possibilité créatrice de la nuit à travers, par exemple, leur journal intime. Et là, bon, avec tout ce que ça comporte comme prévention, problématique, méthodologique, hein, bien sûr, mais on peut très bien, enfin, on peut essayer d'utiliser un certain nombre de ces matériaux pour voir comment le commun, et pas simplement les grands écrivains ou les grands musiciens ou les grands peintres, comment le commun peut sentir cette fonction créatrice de la nuit.
Oui, et c'est pas une manière de dire, de dénigrer cette démarche-là, de dire qu'elle est moins intéressante que celle de l'artiste. Au contraire, il y a quelque chose de la nuit que seul l'historien peut dire en réalité.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de très difficile parce que les sources sont extrêmement éparpillées, elles sont fragmentaires.
Alors sur quoi travaille-t-on justement, du coup, avec quelles sources peut-on retracer l'histoire de la nuit ?
Eh bien écoutez, il faut, je crois, balayer le plus largement possible. Avec la difficulté, c'est celle d'oublier des choses importantes. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler sur des sources, je dirais, classiques. Et à ce sujet, enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je voudrais le dire maintenant, quand j'ai commencé à travailler sur cette enquête, il y a quand même une bonne douzaine d'années, j'avais commencé à travailler dans les archives criminelles en me disant, de toute façon, la nuit, c'est le crime, donc dans les archives judiciaires, je vais trouver des choses, je vais trouver l'essentiel. Et en réalité, pas du tout. Enfin, ou alors, c'est tellement compliqué qu'il faut quand même les utiliser, mais ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Et donc, il faut travailler aussi sur des archives religieuses, des archives personnelles, donc les gens qui écrivent leurs mémoires, des archives littéraires aussi, à condition de les utiliser en historien, c'est-à-dire en essayant de travailler sur la réception collective que nous renvoie, par exemple, le théâtre ou nous renvoie la littérature. Enfin bon, voilà.
Alain Cabantous, ce qui est fascinant dans votre histoire de la nuit, c'est la façon dont vous montrez comment, d'un registre symbolique, imaginaire, qui est celui que vous avez évoqué, on associe la nuit à l'univers criminel, par exemple, où la nuit, c'est l'espace du péché, alors que le jour, on est dans une pureté, dans une innocence. C'est comment ce registre symbolique et imaginaire a une influence directe sur la constitution, déjà, du droit en tant que tel, mais aussi sur l'influence de l'Église et de l'État sur la société. Puisque dans l'imaginaire, la nuit est associée au péché, alors l'Église va statuer, va décider du coup que, par exemple, ce sera uniquement la nuit que les rapports sexuels vont pouvoir avoir lieu, que les rapports sexuels diurnes sont condamnés. Ou du côté de l'État, le droit lui-même, statue que les crimes qu'il y aurait plus de crimes commis la nuit que le jour. Or, c'est faux. C'est impressionnant de voir ce glissement du symbolique au politique et au religieux.
Oui, alors je crois qu'à partir de votre remarque, il faut, inverser la réflexion et la démarche que j'ai pu entreprendre. Pourquoi ? Parce que il me semble que si on a ces discours-là, des églises, des États, de la justice, c'est d'abord parce que, c'est à la fois mon hypothèse et ma conviction. Je ne sais pas si j'ai réussi à le démontrer, mais en tous les cas, j'ai essayé de le faire. C'est que la nuit permet une autonomie à la fois de la personne et une autonomie de communauté. Or, à l'époque moderne, mais je crois que c'est vrai de toutes les périodes, les pouvoirs, quels qu'ils soient, supportent mal que des moments, beaucoup plus d'ailleurs que des espaces, ne soient pas contrôlés par ses puissances. Par conséquent, comment contrôler ou comment tenter de contrôler la nuit alors que l'on sait pertinemment qu'il se passe énormément de choses. C'est ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur ce livre, c'est que moi je voyais une nuit telle que Furtier l'a décrit très brièvement d'ailleurs dans son dictionnaire universel, la nuit est faite pour dormir, point. Donc du coup, tout ce qui se fait et tout ce qui est autre que le sommeil est forcément illicite ou bien suspect. Donc, à partir de ce moment-là, comment lutter contre ces autonomies jusqu'à, effectivement, vous l'avez dit, non pas régir les relations sexuelles, parce que c'est quand même plus complexe que ça. Et puis, il y a le discours de la médecine aussi à ce sujet-là, puisque pour faire de beaux enfants, il vaut mieux faire l'amour au milieu de la nuit plutôt que le jour. Enfin, le jour, c'est interdit aussi dans beaucoup d'autres civilisations que la civilisation chrétienne. La civilisation romaine, c'est la même chose. Bon. Alors, comment faire ? Eh bien, on va donc diaboliser la nuit, on va la criminaliser. On la diabolise par l'intermédiaire du discours des églises, en disant qu'effectivement, c'est bien la nuit que l'homme ou la femme sont les plus vulnérables et le plus vulnérable au péché. Pas forcément d'ailleurs au péché de chair, c'est pas simplement ça, c'est parce que l'homme ou la femme, là, sont pratiquement à la merci du diable dans leur inconscience.
Aussi parce qu'ils ne sont plus regardés, c'est ce qu'on disait avant, comme il n'y a plus le regard des autres comme espèce de jugement moral, alors du coup, on se sent libre de pécher.
Donc, vous avez raison. Et en même temps, on a toujours, par exemple, la hantise de mourir la nuit, c'est-à-dire de mourir dans le monde catholique au moins sans sacrement. C'est-à-dire qu'on est à la merci donc, de la tentation au sens large du terme. D'où la volonté des églises, qu'elles soient d'ailleurs catholiques ou protestantes, d'encadrer un certain nombre de choses. Alors, on ne peut pas encadrer le sommeil, on ne peut pas encadrer le rêve, ou le songe à l'époque, mais on encadre l'avant et l'après. C'est-à-dire qu'il y a des prières au moment où on se déshabille, il y a des prières au moment où on va se mettre au lit, il y a des prières, alors ça, je ne sais pas comment ça se passait, juste au moment où on va s'endormir, donc là, c'est plus compliqué. Et puis, il y a des prières au lever ou bien quand on est réveillé en pleine nuit. Il y a une espèce de recours permanent au ciel pour essayer de se prémunir contre cette menace du péché.
Mais ce qui montre qu'il y a un rythme propre à la nuit, parce qu'on a tendance à penser que le jour est le lieu des horaires fixes, d'une scansion temporelle, alors que la nuit est un espace de liberté, et c'est en ça qu'on en fait d'ailleurs un bon vecteur de la création. Or, d'après ce que vous dites, à une époque donnée en tout cas, la nuit était rythmée par ces prières-là. Il y avait aussi une temporalité propre à la nuit.
Tout à fait. Et là, je ne parle que, je dirais, des civils, si je puis dire. Je ne parle pas du rythme monastique, par exemple, qui lui est évidemment genre totalement différent et beaucoup plus ancien, où là, il n'y a aucun écart entre le jour et la nuit. Il y a des scansions qui sont plus ou moins régulières et qui participent de la, je dirais, de la pratique à la fois de prière, de travail, de méditation du monde monastique. Alors, d'un côté, il y a ce rapport donc, dont je parlais à propos de l'Église. Et tout à l'heure, dans votre introduction, vous disiez « la nuit n'est pas la mort », me semble-t-il.
Parce qu'elle
a
une fin.
Eh bien, pour les églises chrétiennes de l'époque moderne, donc 17e et 18e siècle, la nuit, c'est, je dirais, le préambule de la mort. Quand on est couché, on est comme si on était mort. Quand on est couché, on est dans son drap, si on a un drap, comme dans un linceul. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens refusaient d'ailleurs de dormir couché complètement. Beaucoup de gens dormaient presque assis.
Oui, les lits étaient plus petits d'ailleurs.
Voilà, alors on dit toujours les gens étaient plus petits, c'est vrai. Parce que les lits sont plus petits, mais parce qu'on ne dormait pas allongé comme nous dormons aujourd'hui. Dormir allongé, c'est effectivement commencer déjà à mourir. Voilà. Et puis alors, d'un autre côté, cette hantise de la nuit a entraîné de la part des États et de la justice une criminalisation. Hein. Voilà. Donc du coup, on dit aux gens, surtout, ne faites rien la nuit, parce que, alors là, on ne leur dit pas, en fonction de la notion du péché individuel, mais en disant, attention à vous, quoi. Faites attention à vous, ne sortez pas. C'est risqué parce que vous allez vous faire attaquer, parce que comme il fait noir, c'est épouvantable. Voilà. Donc, il y a un discours de l'État qui dit aux gens, vous restez chez vous, vous et vous. Et c'est fait pour dormir, puisque demain, vous allez travailler. Donc...
Mais ça, vous dites que ça ne correspond pas à une réalité effective. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas plus de crimes la nuit que le jour. Et donc, c'est juste une manière pour l'État d'asseoir son autorité.
Bien sûr. Et il y a donc, non seulement de la part de l'État, mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de la part, des juristes, une espèce d'organisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais une organisation de la loi qui fait, par exemple, qu'un crime de nuit... quel que soit le crime, que ce soit, c'est pas forcément un assassinat, ça peut être un vol, par exemple, est beaucoup plus puni sévèrement parce que la nuit est une circonstance aggravante. Voilà. Or, on se rend compte, là, en travaillant sur les archives judiciaires et criminelles, que bon, la nuit n'est pas plus criminogène que le jour, je dirais moins même. Moins, on risque moins sa peau la nuit que le jour. Il y a une spécificité de la criminalité. Mais pourquoi ? Me semble-t-il, c'est parce que l'agresseur ne voit pas plus que l'agressé. Il faut bien.
Oui, mais ce qui montre bien du coup que votre histoire de la nuit, donc je précise juste que c'est au XVIIe et XVIIIe siècle, la période dont nous parlons ce matin, cette histoire de la nuit est en réalité l'histoire de la nuit à travers la conception de ceux qui la condamnent. C'est une histoire de la nuit, non pas tellement de la façon dont elle est vécue par les individus ou même par des collectivités, mais à travers des documents qui sont ceux de l'Église, de l'État ou du droit, qui essayent de réglementer cette nuit, de la condamner. Donc c'est vraiment une histoire de point de vue de ceux qui essaient d'établir une loi de la nuit, un droit de la nuit, et d'en faire une espèce d'autonomie indépendante du jour, mais une autonomie qui a pour corollaire une attitude répressive vis-à-vis de la nuit.
Oui, alors... vous avez raison, mais ce sont essentiellement les pouvoirs qui produisent les textes.
Mais donc, voilà, c'est voilà. Pour ça. Ouais.
Ceci dit, en creux, on peut quand même, enfin, j'essaie de le faire de temps à autre, on peut quand même voir comment les individus ou certaines collectivités, certaines communautés, paysannes par exemple, ou villageois, je pense à ce qui se passe dans les veillées, faisaient fonctionner la nuit. Mais la difficulté est que, par exemple, sur les veillées, sur lesquels on a beaucoup fantasmé après 1968, enfin bon, à cette époque-là, les veillées ne sont perceptibles pour nous qu'en creux, que par le discours répressif.
C'était souffrir, assurément, que d'être réduit à passer la nuit dans la rue. Et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois à Lyon. Je me souviens d'avoir passé une nuit délicieuse hors de la ville dans un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône, car je ne me rappelle pas lequel des deux. Des jardins élevés en terrasse bordaient le chemin du côté opposé. Il avait fait très chaud ce jour-là. La soirée était charmante. La rosée humectait l'herbe flétrie, point de vent, une nuit tranquille. L'air était frais sans être froid. Le soleil, après son coucher, avait laissé dans le ciel des vapeurs rouges dont la réflexion rendait l'eau couleur de rose. Les arbres des terrasses étaient chargés de rossignols qui se répondaient de l'un à l'autre. Je me promenais dans une sorte d'extase, livrant mes sens et mon cœur à la jouissance de tout cela et soupirant seulement un peu du regret d'en jouir seul. Absorbé dans ma douce rêverie, je prolongeais fort avant dans la nuit ma promenade sans m'apercevoir que j'étais là. Je m'en aperçus enfin. Je me couchais voluptueusement sur la tablette d'une espèce de niche ou de fausse porte enfoncée dans un mur de terrasse. Le ciel de mon lit était formé par les têtes des arbres. Un rossignol était précisément au-dessus de moi. Je m'endormis à son chant. Mon sommeil fut doux. Mon réveil le fut davantage. Il était grand jour. Mes yeux, en s'ouvrant, virent l'eau, la verdure, un paysage admirable.
France Culture, vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h27. Vous êtes en train d'écouter Barbara au cœur de la nuit, au cœur, ou plutôt au début de cette semaine que le nouveau chemin de la connaissance consacre au thème de la nuit, justement. Et aujourd'hui, en compagnie d'Alain Cabantous, nous parlons d'une histoire de la nuit, une histoire du 17e au 18e siècle. C'est le titre de son ouvrage qui est paru aux éditions Fayard.
Au dehors, j'en étais sûr, j'ai souvenir qu'une nuit, une nuit. Une allée obscure, j'allais à demi éveillée, guidée par l'étrange murmure. Il y eut, je me le rappelle, surgissant de l'allée obscure, il y eut un bruissement d'ailes là, tout contre ma figure. C'était au cœur de la nuit.
Alain Cabantous, dans le texte de Rousseau qu'on a entendu juste avant, écoutez Barbara au cœur de la nuit, donc le texte de Rousseau interprété par le comédien Georges Clès, on y entendait Rousseau décrire une nuit qu'il passe à Lyon, une nuit comme un lieu d'extase, de jouissance, dit-il, même de volupté. C'est un texte qui annonce aussi la cinquième rêverie de Rousseau, où Rousseau se trouve dans sa barque à la nuit tombée, après le souper, dit-il, ce qui est une façon de dire une fois que la nuit tombe. Et il fait cette expérience de l'existence en tant que telle. Il parle du flux et du reflux de l'eau qui lui permet de saisir lui-même en tant qu'existence. Et dans ce texte-là, on a tout un lexique. Donc on est en 1767, c'est là. On commence à la deuxième moitié du 18e siècle que vous abordez dans votre ouvrage. Et on est là, du coup, dans ce lexique qu'on qualifie de romantique, où l'on associe la nuit à cette ouverture de l'individu vers le monde, vers un infini. C'est ce jaillissement de la jouissance qui est complètement étranger et différent de ce qui des conceptions de la nuit au tout début du XVIIe siècle, Alain Cabantous.
Oui, alors je crois que la situation ou la position de Rousseau est quand même un peu particulière. Alors c'est vrai que par certains aspects, il annonce, et je pense que vous en parlerez dans une autre émission, une forme d'accaparement de la nuit par des courants littéraires romantiques qui modifient évidemment.
Oui, on en parlera mercredi matin.
Voilà, assez sensiblement les choses. Mais, et puis, bien sûr, voilà, on le voit très bien, il parle de cette espèce de voûte étoilée sous laquelle il dort. Enfin, bon, je pense que ça doit être l'été ou ça doit être au printemps, parce qu'en hiver, il n'aurait pas forcément parlé comme cela. Ceci dit, dans d'autres extraits, notamment des Confessions de Rousseau, il fait part de sa difficulté à l'égard de la nuit. Donc, il raconte un certain nombre d'anecdotes où, jeune homme, il a eu peur de la nuit, tout en se vantant d'en être, je dirais, exempt. Et à un moment, il dit qu'il était chez un pasteur et qu'il se vantait de ne pas avoir peur la nuit. Et ce pasteur lui dit, à la fin du repas, « Allez donc me chercher la Bible qui se trouve dans le temple, voilà la clé. » Et il raconte qu'il a eu extrêmement peur de cette obscurité. Alors que, bon, voilà. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement tout un courant littéraire de cette période-là qui est complètement différent. Et par exemple, l'importance dans la littérature anglaise, puis dans la littérature européenne, puisque ça a été traduit, je pense à Jung, par exemple, aux Nuits de Jung, qui associe alors toujours la nuit à la mort, la nuit à la désespérance, la nuit à l'amoureux transi qui erre à travers les tombes à la recherche de la sépulture de sa bien-aimée. Et puis, bien sûr, presque au même moment, le développement du roman gothique, où là, la nuit devient un élément effrayant, ou plutôt continue à être un élément effrayant, associé à un enfermement, associé au souterrain, au cachot, au crime, bien entendu, le plus terrible. On regarde le moine, par exemple, de Lewis, ou Walpole, qui commence d'ailleurs ses romans gothiques, avec le château d'Otrante. Donc, presque au même moment, il y a ce courant littéraire qui va avoir un succès considérable en Europe, et ces deux éléments vont parfois se rencontrer. Hein, parfois, dans le romantisme, on trouve effectivement cette approche entre la mort et la nuit, ça c'est vrai, mais et parfois complètement se séparer.
Mais alors, est-ce que l'historien parvient à retracer la genèse de cette évolution de la conception de la nuit, y compris au sein de la littérature, puisque contrairement justement à un romancier ou un artiste pour qui la nuit serait soit un objet, soit le vecteur de la création, l'historien s'interroge sur les causes de certaines évolutions et s'interroge sur les facteurs qui vont induire l'évolution d'une notion ou d'une dimension de la vie, en l'occurrence la nuit, dans un sens ou dans l'autre. Vous montrez dans votre livre, par exemple, qu'à partir du moment où le pouvoir a décidé de mettre en place un éclairage des rues la nuit, alors on a essayé de prolonger le jour le plus longtemps possible, c'était une manière de chasser la nuit, et ça a eu des conséquences directes sur la façon dont les individus habitaient la nuit. Il y a eu le début de certaines célébrations nocturnes, le début de la fête, ça date à partir du moment où le pouvoir a décidé de mettre en place un éclairage. Et donc il y a ici ces causes matérielles qui vont avoir pour conséquence une évolution de la conception que les gens se font de la nuit.
Oui, vous avez tout à fait raison dans ce que vous développez, parce que dans un premier temps, mettons, entre la fin du XVIe et les années 1620-1630, on a dans la création littéraire en particulier, et dans la création théâtrale, une nuit effroyable. Donc, c'est une nuit qui répond, elle aussi, aux attentes des pouvoirs. En disant, voilà, alors, la difficulté pour l'historien, c'est de dire quelle est la réception, par exemple, des pièces élisabéthaines sur le public anglais, parce que le théâtre est un divertissement à l'époque extrêmement populaire. Ça les conforte dans la nuit effrayante, dans la nuit criminelle, dans la nuit qu'on ne peut pas affronter sans danger. Et alors, progressivement, c'est vrai que par rapport à cette criminalisation qui n'a marché en fait que très moyennement, il y a une deuxième possibilité que les pouvoirs essaient de mettre en place, et en particulier les pouvoirs, disons, publics au sens large, c'est de faire de la nuit un prolongement du jour, c'est-à-dire de contrôler la nuit, et parmi d'autres éléments, effectivement, l'éclairage public devient l'expression même de ce contrôle. Et l'expression même de la disparition de la nuit. Au moment où l'éclairage public à Paris se met en place, dans les années 1666-70, un plumitif dit « Enfin, la nuit va disparaître ». Et Madame Sévigné, qui revient d'accompagner l'une de ses amies en carrosse dans le faubourg Saint-Germain en rentrant chez elle, s'exclame « Enfin !» La nuit est en train de disparaître. Mais rien du tout. Rien. C'est purement psychologique. Parce que les lanternes éclairaient extrêmement peu. Parce qu'il y avait beaucoup de villes où il n'y avait absolument aucun éclairage. Je ne parle pas des villages où l'éclairage public ne date que des années 1960, quand même, en Europe occidentale. Hein. Mais tout est dans, je dirais, une fois de plus, la représentation. Tout est dans la représentation. Il suffit d'avoir des lanternes pour se dire, ça y est, on est en sécurité, ça y est, le pouvoir a enfin le contrôle du temps et le contrôle de la nuit.
Oui, ouais, et voir la nuit qui s'éclaire, ça montre bien qu'on est dans le siècle des lumières, même au sens propre. Voilà. Mais alors, il est intéressant de voir qu'à partir du moment où la nuit s'illumine, la façon qu'ont les hommes, ou en tout cas les hommes au pouvoir, hein, de l'investir, c'est de faire la fête, en fait, tout simplement. C'est ce que vous montrez dans votre livre, notamment avec à Versailles. Les nombreuses fêtes qui sont données au château de Versailles arrivent à partir de ce moment-là. En effet, c'est à partir du moment où on décide d'insérer ou de prolonger le jour au sein de la nuit. Cela induit un nouveau comportement. Alors nouveau, bon, bien sûr, il existait avant, mais il devient institutionnalisé. Et c'est assez frappant de voir ça, parce qu'il y aurait d'autres façons d'utiliser le jour au sein de la nuit. Et il est marrant de voir que ça réveille en l'homme cette espèce d'appétit pour la célébration et pour la fête.
Alors une fois de plus, si vous voulez, c'est vrai que selon un schéma bien connu, il est probable que la culture curiale, la culture de cour, a été à l'origine de ces fêtes nocturnes. Mais ces fêtes nocturnes représentaient essentiellement, je dirais, une expression de l'entre-soi, de l'aristocratie. Bon. Ce n'est que progressivement que je dirais, l'imitation s'est développée, notamment à travers les villes. Et du coup, c'est une autre forme de contrôle dont je parlais tout à l'heure. Les pouvoirs des villes, par exemple, organisent des fêtes nocturne, à l'occasion d'ailleurs en particulier d'événements qui touchent les familles royales, que ce soit les naissances, les mariages, les victoires aussi. Mais c'est toujours très très bien organisé, c'est toujours très très bien contrôlé. Et on retrouve là effectivement une imitation de ce qui existe dans la culture de cour. Vous parliez de Versailles tout à l'heure. Il y a un autre exemple tout à fait étonnant, c'est la duchesse du Maine, qui, à la fin du règne de Louis XIV, organise des nuits à Sceaux, dans son château de Sceaux. Et là, ce sont des véritables, je dirais, programmes de festivités avec des pièces de théâtre, avec des pièces musicales, avec des danses. Et on la célèbre toujours comme la reine de la nuit. Voilà, c'est
la reine de la nuit, dont on va entendre un extrait juste dans un instant. Mais juste avant ça, je vous propose de retourner à Versailles, puisqu'on parlait de Versailles, et d'entendre un extrait du film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette, qui date de 2005, ce qui est une bonne façon de voir, là, pour l'historien que vous êtes, de voir comment le 21e siècle se représente, ce qu'étaient les fêtes à Versailles à l'époque. Et notamment dans cet extrait qu'on va entendre, c'est une scène de séduction entre le comte Fersen et Marie-Antoinette. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, alors qu'on a reproduit le jour au sein de la nuit, avec l'illumination des pièces, eh bien, on va en fait essayer de reproduire les conditions de la nuit en se masquant. C'est un bal masqué, les gens se voilent leur propre visage, comme si on éclairait la nuit pour mieux en montrer l'anonymat qu'on chasse par ailleurs. Enfin, c'est intéressant de voir le jeu qu'il y a entre le jour et la nuit. Donc, écoutez l'extrait tout de suite et ensuite, la reine de la nuit.
Amusez-vous.
Nous connaissons-nous ?
Non, j'en suis certaine. Avec cette femme, croyez-vous que vous allez parvenir au but ?
Peut-être bien. Comptez-vous me dire qui vous êtes ?
Et vous ?
Comte Fersen, de l'armée suédoise.
Comte Fersen ?
Malheureusement, on ne peut pas entendre Régine et la reine de la nuit qu'on avait prévue. Alors bon, peut-être que les auditeurs sont en train de la fredonner.
Je crois que vous parliez de Mozart, mais enfin bon.
Ah, c'était une autre idée, mais Mozart n'est pas non plus disponible à 10h39 ce matin.
Entre Régine et Mozart, je crois que je choisis quand même.
Ah ben, ça se discute, ça dépend, ça dépend de la vision de la fête qu'on a.
Oui.
En tout cas, dans l'extrait qu'on a entendu donc sur ce bal masqué, dans la figure du masque, on a toute l'ambivalence du rapport à la nuit que l'on recherche, que l'on fuit pour mieux la recréer ensuite, Alain Caventous.
Oui, c'est ça. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, avant l'extrait, il est bien évident que chasser la nuit par une désillumination absolument phénoménale entraîne aussi, je dirais, une vulnérabilité de l'individu. Et, du coup, la nuit ne joue plus son rôle de dissimulation et le masque permet justement, évidemment, de manière plus réduite, de revenir à ses origines. C'est-à-dire, en fait, on est en, comme en plein jour, on y voit comme en plein jour, on a des expressions. Et on parle d'ailleurs de nuit blanche à partir de ce moment-là. Voilà. Mais en même temps, il faut continuer à se dissimuler, il faut continuer à se cacher. Et donc, le masque participe de cette recherche. C'est la même chose d'ailleurs, pas seulement dans les fêtes de cour, mais on retrouve le même élément à Venise, par exemple, au moment du carnaval, où il y a un carnaval qui se prolonge très souvent la nuit, dans les rues, dans des rues qui sont éclairées, et le masque, alors qu'on le met aussi le jour, mais contribue à instaurer malgré tout cette dissimulation, oui.
Est-ce qu'on peut voir dans cette volonté qu'a l'homme d'apprivoiser la nuit, y compris avec, la mise en place de célébrations et de fêtes nocturnes et l'utilisation du masque, est-ce qu'on peut y voir la façon en fait, de partir de l'histoire de la nuit pour montrer comment l'homme essaie lui-même d'avoir un contrôle sur les éléments naturels qui normalement lui échappent, comme pour mieux se développer lui-même? On voit dans le masque une façon qu'a l'homme de montrer « Regardez, moi-même je peux reproduire les conditions de la nuit, j'ai le contrôle dessus, donc je m'affranchis dans une certaine mesure d'un déterminisme naturel. »
Oui, alors ça, c'est possible, c'est une idée intéressante. Mais je n'ai jamais trouvé, je dirais, de proclamation de ce genre, enfin, ou même de confidence, pas de proclamation, mais de confidence de ce genre dans les écrits.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'une histoire de la nuit, celle que vous proposez, on voit la façon, l'évolution de la conception de l'homme vis-à-vis de lui-même également. Ce n'est pas uniquement la façon dont il conçoit la nuit, c'est aussi la façon dont lui-même se considère comme étant cet être vivant au sein d'un tout, et donc aussi au sein d'un monde naturel rythmé par le jour et la nuit.
Oui, oui, absolument, oui, tout à fait.
Et ça, ça pose la question du rapport entre l'individuel et le collectif, il me semble, puisqu'on en parlait au début d'émission avec notamment l'extrait de Cyrano de Bergerac. Il y a la façon dont chacun vit la nuit, l'expérience que nous en faisons, l'expérience sensible. Et puis, il y a la façon dont la nuit est instaurée, institutionnalisée au sein de la société. Et est-ce que l'historien peut s'intéresser à ces deux dimensions, à la fois la dimension individuelle, intime, disons, du rapport de l'homme à la nuit, la dimension plus collective qui paraît plus facile, hein, quand même à ressaisir à travers les documents?
Ah, ça, c'est une question qui est extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, mis à part évidemment des situations très particulières, lorsque des gens sont dans leur lit, leur chambre à coucher, donc on a une fonction là qui est fortement individualisée, ou lorsque les gens font la fête dans un château quelconque, là on a une dimension collective. Mais je crois que cette partition-là, ce n'est pas une partition complètement étanche. Il y a toujours, notamment dans ces sociétés anciennes, ces sociétés d'ancien régime, il y a toujours un va-et-vient entre le collectif et l'individuel. Et par exemple, je prendrai simplement deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple, ce qu'on appelle la cour nocturne. Autrement dit, j'ai été très très étonné en dépouillant les archives et en regardant des textes, de voir qu'il y avait effectivement, dans un certain nombre de régions d'Europe, beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pensait, et qui ne correspondent pas à des sensibilités religieuses particulières. On peut trouver ça en pays catholique comme en pays protestant, ce qu'on appelle les cours nocturnes. C'est-à-dire que des jeunes gens sont habilités ou sont autorisés, enfin des jeunes gens, des jeunes hommes, sont autorisés par les parents d'une jeune fille à passer la nuit dans sa chambre sans qu'il y ait de rapport sexuel. Alors vous allez me dire, c'est très difficile, peut-être, mais enfin bon. Et en tous les cas, les quelques sources dont on dispose montrent que c'était à peu près respecté, dans la mesure où, si le contrat n'était pas respecté, ni l'un ni l'autre ensuite ne trouveraient dans leur communauté, de toute façon, un époux ou une épouse. Bon. Et on a là une dimension individuelle, mais qui est largement contrôlée par la communauté, largement contrôlée par les parents, ne serait-ce que par l'acceptation. Puis là, ils sont quand même tout autour et ils sont garants, cette communauté est garante, ou ses parents sont garants de la constitution de couple, qui vont évidemment entraîner, la suite de la vie de la communauté. Et puis le deuxième exemple, ce sont les enterrements nocturnes. Alors les enterrements nocturnes, c'est à la fois évidemment une notion qui est proprement individuelle, c'est l'enterrement d'une personne, mais qui prend une dimension totalement collective. Pourquoi ? Parce que, en principe, les enterrements nocturnes dans la civilisation européenne de cette époque sont interdits. On doit être sauf les exclus. Hein. Les esclaves en Espagne sont enterrés de nuit, les protestants après la révocation de l'édit de Nantes en France 1685 doivent être enterrés de nuit, enfin, etc. Bon. Mais il y a de plus en plus d'enterrements nocturnes qui se développent. Alors c'est vrai que c'est plutôt une tendance que l'on trouve dans le monde protestant plutôt que dans le monde catholique. Et là, à côté de cette notion, enfin à côté de ce comportement, cette posture individuelle, c'est la décision de la personne d'être enterrée de nuit. Il y a toujours une
dimension. C'est la personne elle-même, quand elle n'est pas encore défunte, voilà, qui décide de se faire enterrer de nuit.
Alors pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons qui sont bassement matérielles, parce que ça coûte moins cher que d'être enterré de jour, notamment en Angleterre, et notamment pour les lords anglais ou pour la gentry anglaise. Mais il y a aussi une notion religieuse qui est très forte, en disant, voilà, je veux être enterré de nuit par humilité. Mais en fait, c'est une fausse humilité dans la mesure où, très souvent, vous avez, pour un certain nombre de personnalités anglaises que j'ai retrouvées, vous avez une soixantaine de carrosses avec des flambeaux partout. Enfin, je veux dire, c'est, voyez comme je meurs, voyez comme je suis enterré quand même. Hein, voilà, bon. Et puis, il y a aussi une dimension qui est religieuse, enfin, qui est plus fortement religieuse, c'est-à-dire, d'un côté, on fait jouer le rapport entre la nuit et les ténèbres, enfin, même si la nuit et les ténèbres, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, dans l'attente de la résurrection, enfin, c'est un peu ça.
Comment vous distinguez la nuit des ténèbres, juste ?
Les ténèbres sont utilisées dans le langage essentiellement religieux et philosophique au XVIIe et au XVIIIe siècle comme étant un moment ou un temps de l'absence de Dieu. Hein, on est dans les ténèbres. Mais les ténèbres, ce n'est pas forcément la nuit. Enfin, il peut y avoir évidemment une corrélation, hein, bien sûr. Parmi les mystiques du XVIe siècle espagnol, il y a un lien entre leur attente de Dieu, leur recherche de Dieu et la nuit. Mais ce n'est pas tout à fait associé. Il n'empêche que les gens qui se font enterrer de nuit essaient de jouer sur cette notion-là. Et puis, il y a une autre dimension religieuse, c'est le fait qu'on est enterré sans pasteur. Les pasteurs, puisque c'est interdit d'être enterré de nuit par les églises et par les États, donc il y a une espèce de laïcisation de l'enterrement qui possède évidemment à la fois une dimension individuelle et une dimension collective.
Voilà, donc vous montrez bien que la nuit est bien loin d'être juste simplement un phénomène, disons, cosmologique. Hein, le retour, le déplacement du soleil, le déplacement de la Terre, d'ailleurs.
Oui,
la nuit elle-même est donc cet objet le résultat de conception, d'imagination et de représentation, ce qui en fait un objet digne de réflexion pour l'historien que vous êtes.
Oui, tout à fait, parce que on a d'ailleurs beaucoup de difficultés à définir la nuit, même à l'époque. Et que dit-on quand on essaie de définir la nuit ? C'est l'absence de soleil ou c'est l'absence de jour. Autrement dit, c'est toujours une définition en creux. C'est toujours une définition qui est une définition par rapport à autre chose, mais pas pour elle-même.
Merci beaucoup Alain Cabantous d'être venu nous parler de la nuit aujourd'hui.
Je
vous renvoie à votre ouvrage Histoire de la nuit du XVIIe au XVIIIe siècle qu'on trouve aux éditions Fayard. Alors on avait prévu de diffuser en fin d'émission la chanson des Beatles Good Night qui est très très belle. Je renvoie les auditeurs qui peuvent l'écouter. Alors finalement on aura une chanson qui est un peu plus dans le registre qu'on évoquait tout à l'heure, celui de la fête nocturne, hein, on va dire. On va faire le lien ainsi. Et du coup il est 10h50 et c'est l'heure de faire le lien avec autre chose, réveillez-vous. Voici François Nudelman qui vient vous présenter son journal diurne de la philosophie. Bonjour François.
Bonjour Adèle. On va parler de Freud et de Proust qui ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, l'inventeur de la psychanalyse et le fin connaisseur de la mémoire intime partageaient bien des intérêts. Jean-Yves Tadié a l'idée saugrenue et brillante de faire parler chacun par la bouche de l'autre. Son livre s'appelle « Le lac inconnu » et c'est publié chez Gallimard. Jean-Yves Tadié, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît, grand spécialiste de Proust, et vous décidez de faire rencontrer votre auteur avec Freud. Alors pourquoi cette idée? Est-ce à propos du sommeil, du rêve, dont ils sont un peu, on peut dire, des praticiens et des spécialistes aussi?
C'est plutôt un instinct qu'une idée à l'origine, que les idées de décès me viennent comme les idées de romans à d'autres. Et c'est presque aussi une pièce de théâtre, ce dialogue. J'ai pensé qu'on apprendrait plus en rapprochant Freud et Proust qu'en comparant Proust à Proust ou Freud à Freud. Et à propos des... J'ai constaté qu'autour d'à peu près 12 problèmes, 12 thèmes qui s'enchaînent, mais j'aurais pu en trouver plus... Ils avaient une grande convergence de champs, de questions et de réponses. Et j'ai pensé que là où l'un s'arrêtait, l'autre continuait, de manière à boucler complètement le cercle. C'est-à-dire si on considérait successivement le sommeil, le rêve, l'enfance, l'amour, l'homosexualité, la jalousie, les mots d'esprit, l'humour, le deuil, il y avait là une interprétation de ce qu'on appelait autrefois l'âme humaine, complète, émouvante, des rencontres bouleversantes entre deux hommes qui en effet ne se sont pas connus et dont tout récemment quelqu'un a écrit que Freud, lui, avait ouvert du côté de chez Swann mais ne l'avait pas du tout aimé.
Vous employez ce terme de lac inconnu à propos d'une phrase de Proust, mais on sait aussi que c'est une métaphore pour parler de l'inconscient.
De l'inconscient, parce que Proust, de manière très originale finalement pour son époque, dit qu'il veut écrire des romans de l'inconscient, et il écrit aussi à Jacques Rivière, son ami et son grand critique, le premier à l'avoir compris, c'est l'inconscient qui est premier pour moi.
Cette impression aussi d'une commune, d'une communauté dans le sommeil, dans le rêve, nous amène aussi à cette idée que tous les deux croient dans la profondeur et dans la remontée du temps.
Le rapport au temps est assez semblable finalement, parce qu'ils arrivent tous les deux à un domaine quasi religieux où il n'y a plus de temps. Pour Freud, chacun le sait, l'inconscient ne connaît pas le temps. Idée merveilleuse, idée extraordinaire que nous vérifions d'ailleurs chaque fois que nous rêvons. Nous constatons à quel point nous sommes dans une sorte d'ascenseur qui nous emmène à 12 ans, 18 ans, 30 ans. Eh bien, pour lui, c'est pareil. Il arrive par la mémoire à un souvenir quasiment intemporel et qui échappe au temps. Oui. Ce qu'il appelle du temps à l'état pur.
Malgré tout, cette remontée, elle fait valoir la figure de l'enfant comme la source chez les deux.
Chez les deux, et ils mettent fin tous deux, contrairement à ce qu'on croirait, au thème du paradis de l'enfance. Ce thème qu'on entend encore parfois évoquer, tous les deux montraient que l'enfer était bien dans l'enfance et non pas le paradis. C'est bien sûr l'enfer de la sexualité infantile qu'invente Freud, mais c'est aussi l'enfer de la sexualité infantile que décrit Proust de manière explicite parfois et de manière implicite dans la scène symbolique du baiser du soir à la mer.
Jean-Yves Tadié, à propos d'invention, vous venez d'employer le terme inventé. Freud a écrit un texte en 1937 qui s'appelle « Construction dans l'analyse » où il explique comment, à partir d'expériences, il construit des cas. Est-ce qu'on pourrait dire que Freud est, en inventant des cas, en transformant l'expérience singulière en cas, est aussi un écrivain?
Sans aucun doute, il l'est souvent. On a l'impression même que c'est un écrivain réprimé. Il y a tout à coup des phrases merveilleuses qui jaillissent comme des soupirs. Par exemple, la dernière phrase du mot d'esprit dans sa relation avec l'inconscient et d'autres encore. Et on peut lire les cinq psychanalyses comme cinq romans. Il suffit de comparer avec d'autres études de cas de ses successeurs pour voir, si j'ose dire, la différence.
Alors inversement, est-ce qu'on peut dire de Proust qu'il construit des cas ou reste-t-il toujours?
Oui, bien sûr, le romancier construit des cas. Oui. La scène du baiser du soir elle-même est la synthèse de bien d'autres souvenirs. Il faut ajouter d'ailleurs que nous apprenons par Freud que ce grand souvenir fondateur de Du côté de chez Swann, dû à la mémoire volontaire, n'est peut-être qu'un souvenir écran, que nous ne faisons que construire nos souvenirs d'enfance, qu'il n'y en a pas un qui soit vrai. Donc, nous sommes romanciers de nous-mêmes.
Jean-Yves Tadier, est-ce qu'on peut aussi remarquer que l'un a beaucoup vécu intensément, l'autre peut-être différemment? En tout cas, leurs vies sont très différentes, vous le rappelez. Est-ce que, comment est-on le meilleur connaisseur de la psyché? Est-ce qu'il faut avoir vécu soi-même très intensément des situations psychologiques pour pouvoir les décrire, ou bien est-ce qu'on peut se contenter d'être un observateur?
Les deux ont opéré la même chose, c'est une grande torsion vers eux-mêmes. Ça a été cette grande auto-analyse que Freud pratique et dont il laisse cet extraordinaire témoignage que sont l'ensemble des lettres à son ami Fliss, publié sous le titre d'Invention de la psychanalyse. Et bien sûr, Proust aussi a tourné son regard en lui-même. Il écrit un jour de 1902 à son ami Ubiesco, « Depuis le jour où j'ai tourné mon regard en moi ». Les plus grands artistes sont ceux qui sont à la fois capables de regarder le monde et d'opérer cette torsion en eux-mêmes dont beaucoup de notre temps croient pouvoir faire l'économie. Et qui n'a rien à voir, je précise, avec l'autofiction. Oui.
On pourrait malgré tout s'étonner de les voir rapprocher alors qu'ils ont des sexualités très différentes, peut-être des mêmes interrogations à l'égard de, vous le montrez, de la sexualité féminine, de l'homosexualité. Malgré tout, on sent plutôt indifférent.
Il y a des différences. On ne peut pas dire que Proust a eu 6 enfants. Mais en revanche, on peut très bien dire, et on l'a dit, que Freud avait des pulsions homosexuelles très fortes à l'égard de son ami Fliss, ou même à l'égard de certains de ses disciples, comme Jung ou Adler. Lorsqu'il discute avec Jung, qu'il y a une syncope parce que Jung le contredit, c'est tout de même un phénomène plus qu'étrange.
Au regard de ces différends, malgré tout aussi, la psychanalyse s'inscrit en faux par rapport à la psychologie. Et est-ce que ce qu'on a pu peut-être abusivement considérer comme une sorte de déterminisme psychologique chez Proust ne va pas à l'encontre de ce que Freud essaye de penser en termes de psychanalyse?
Vous avez raison, Freud marque très bien que la psychologie de son temps était dans une impasse. Mais c'est aussi ce que notifie Proust à Bourget, Barrès, Boileau et tant d'autres qui écrivaient des romans psychologiques.
Oui. La critique a quand même bien changé depuis quelques années, notamment le retour de la biographie. Et là, carrément, vous organisez un théâtre où vous faites intervenir la vie de l'un et de l'autre. Est-ce que vous diriez que c'est significatif aussi d'un nouveau rapport au texte aujourd'hui?
Probablement y a-t-il un retour de la biographie. Je prends soin de préciser dans mon livre ce qui relève de la biographie, ce qui relève de l'œuvre, sans faire de confusion. Je ne puise pas dans l'un pour interpréter l'autre, jamais. Mais je pense que s'agissant de l'interprétation de l'homme, on a besoin aussi de connaître un petit peu de leur vie.
Merci beaucoup Jean-Yves Tadier. Je rappelle le titre de votre livre, Le lac inconnu entre Proust et Freud. C'est paru chez Gallimard.
Merci François, merci Jean-Yves Tadier et Alain Camotus qui est encore avec nous en studio. De l'histoire de la nuit au lac inconnu, c'était le programme inconscient du jour. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la nuit. Demain, je recevrai Henri Godard pour vous parler du voyage au bout de la nuit de Céline, évidemment. Si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et vous pourrez également la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez.